Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous. Je vous rappelle que dans quelques instants, comme à notre habitude, on va diffuser le point de presse. François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda feront le point sur la situation pandémique. 1490 cas aujourd'hui, 12 décès malheureusement, 13 hospitalisations supplémentaires et 8 personnes de plus aux soins intensifs. Et rarement, là, il y a plus de cas dans la capitale nationale qu'à Montréal. Donc, ça demeure très, très préoccupant dans le coin de Québec, en Outaouais aussi, avec 245 cas. Hier, on parlait de Chaudière-Appalaches, là, encore beaucoup de cas aujourd'hui, 149 cas. Évidemment, on va surveiller tout ce qui va se dire à propos des derniers événements là qui se sont déroulés à Montréal. On sait, dimanche, il y a eu des manifestations, il y a eu de la casse aussi. Je veux préciser, parce que je trouve ça toujours important de le faire, que c'est une infime partie des manifestants qui ont décidé de casser des affaires, de mettre le feu, mais c'est quand même déplorable parce qu'ils se sont attaqués à des commerces, à des restaurants, et ce sont quand même eux, hein, les commerçants, les restaurateurs, qui sont bien nos premières loges de ceux qui doivent essuyer un coût économique assez élevé par rapport à cette pandémie-là. Probablement qu'il sera question aussi de la confusion autour du port du masque à l'extérieur. Hier, je vous disais que ce que je comprenais là en date d'hier, avec les informations que j'avais hier, c'était que si on sortait avec quelqu'un qui n'était pas dans notre bulle, qui n'habitait pas à la même adresse, donc qu'on devait porter le masque si on ne se trouvait pas à 2 mètres de distance. Là, ce que je comprends, là, et ça sera vraiment confirmé tantôt à mon sens, puis s'il confirme pas, il y aura des questions là-dessus parce que c'est la confusion la plus totale. Ce qui circule, c'est que dans le fond, c'est pas ça. C'est que dès qu'on sort avec quelqu'un qui habite pas à la même adresse, on doit porter le masque. Et là, c'est un peu ridicule parce qu'on le sait, là, il y a des exceptions en ce moment pour les personnes qui habitent pas à la même adresse. Je pense à la propre exception que je constitue avec mon chum, c'est-à-dire qu'on est un couple, on n'habite pas à la même adresse, on a des enfants, donc on est une bulle. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir porter des masques si on sort faire du rollerblade avec les enfants ou autre facilité? Beaucoup de confusion autour du port du masque à l'extérieur, beaucoup de confusion aussi sur comment les policiers s'y prennent pour appliquer là, les contraventions, les lois. Ce qu'on a entendu, là, c'est qu'il y avait certains policiers même qui étaient mêlés par rapport à ce qui s'est passé dans les parcs. Un peu plus tôt, là, en fin de semaine, il faisait très, très beau. On a vu beaucoup de gens s'amonceler dans les parcs. Dans certains parcs en particulier, là, je rappelle qu'au parc Jeanne-Mance, au parc Laurier, au parc Maisonneuve, au parc La Fontaine, il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Et on voyait sur les images des gens pogner des tickets en bon québécois et se dire « Pourquoi moi? » Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi que la police vient voir, intercepte? Est-ce que j'étais pire que les autres? Est-ce que j'étais moins distancée que les autres? On a assisté quand même à des scènes vidéo assez drôlatiques, là. Puis je mets des guillemets à drôlatiques parce que pogner un ticket de 1 500 $, c'est jamais drôle, mais on a assisté à des scènes où, je voyais, par exemple, des filles qui avaient décidé d'aller faire du yoga dans le parc, se faire intercepter par les policiers, et on voyait un peu plus loin un groupe de sportifs qui, eux, n'étaient pas inquiétés. Puis on parlera à un policier tantôt, un ex-policier, qui nous dira ben comment les policiers s'y prennent justement pour prendre ces décisions-là, à qui on donne un ticket. Est-ce qu'il va être question du couvre-feu aussi? Parce qu'on le sait, là, les manifestations dont je parlais qui se sont continuées hier soir, ben elles sont en lien avec le couvre-feu. Le bon nombre de citoyens trouvent que c'est un peu tiré par les cheveux en ce moment à Montréal, alors qu'on nous dit que la situation est sous contrôle, d'appliquer un couvre-feu de façon préventive. Parce que M. Legault l'a bien dit, il a décidé de faire ça de façon préventive pour pas que la situation s'enflamme comme en Ontario en ce moment. Là, les cas qui continuent de grimper, situation qui continue d'être excessivement préoccupante chez nos voisins, parce que l'Ontario, on partage une frontière avec cette province-là. Puis d'ailleurs, là, on aura le point de presse, ça va commencer bientôt, mais Mylène Drouin aussi, hein, de la Santé publique de Montréal, sera en point de presse un peu plus tard, vers 14h. On va y revenir avec Vincent Dessoureau, comme à notre habitude, mais elle s'est fait poser des questions de façon indirecte, là, Mme Drouin, notamment sur les parcs, notamment sur les modules de jeu. Vous vous rappelez, lors de la dernière vague, on avait fermé l'accès aux modules. Là, on a des écoles qui sortent, qui font jouer les enfants dans ces modules-là. M'étonnerait qu'on désinfecte les glissades, les balançoires, les bascules après chaque intervention des écoles, après chaque groupe. Tu sais, à quoi ça sert de garder des bulles de classe dans ce contexte-là? On va aller tout de suite au point de presse. Ça commence.
La parole est à vous.
Oui, bonjour tout le monde. Hier, on a eu 1490 nouveaux cas, 12 nouveaux décès, dont 6 seulement ici à Québec, dans la capitale nationale. 6 décès, 6 nouveaux décès hier à Québec. Donc, s'il y en a à Québec, entre autres, qui pensent que c'est pas sérieux, la COVID, 6 nouveaux décès dans une journée, je pense que faut regarder les faits et être très, très, très prudent. On a eu hier le ministre de la Santé, directeur national de la Santé publique, une longue rencontre avec les experts de l'INES, de l'INSPQ, les autres experts qui sont à la santé publique, pour essayer de faire des projections dans les prochaines semaines. Ce qu'on voit, c'est que la situation reste grave, puis malheureusement, risque de s'aggraver encore plus dans les prochaines semaines. On a pour l'instant 643 hospitalisations, mais quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, c'est très inquiétant. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. En France, actuellement, on a 29 000 hospitalisations. En Italie, on a 32 000 hospitalisations. À New York, on a 4 800 hospitalisations. Plus près de nous encore, en Ontario, on est rendu à 1 800 hospitalisations. Je le rappelle, nous, on était 643. Donc, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut effectivement se demander est-ce que c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Bon, d'abord, c'est important de dire il y a trois régions qui nous inquiètent vraiment, où c'est vraiment très grave. Bon, d'abord, ici, dans la capitale nationale, seulement depuis 2 jours, on a eu une augmentation nette de 15 hospitalisations. L'autre région qui nous inquiète beaucoup, c'est l'Outaouais. On a eu juste depuis 2 jours 13 hospitalisations au net de plus. Et Chaudière-Appalaches, qui est quand même une région plus petite. Et puis là, le problème n'est pas seulement Lévis, il est beaucoup aussi en Beauce. Puis depuis 2 jours, on a eu 5 nouvelles hospitalisations. Donc, quand on regarde l'augmentation des cas des dernières semaines, on peut penser que dans ces trois régions-là, les hospitalisations vont continuer d'augmenter. Et c'est dans ces trois régions-là qu'on a, toute proportion gardée, le plus grand nombre de nouveaux cas puis le plus grand nombre de cas actifs. Donc, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais. Donc, je vous annonce tout de suite aujourd'hui qu'on va reporter pour une semaine les mesures d'urgence, donc jusqu'au 25 avril. Ça veut dire essentiellement 3 grosses mesures. Couvre-feu à 8 heures. Les commerces non essentiels restent fermés et toutes les écoles restent fermées dans ces 3 régions-là. On étend aussi un peu le territoire parce que on s'est rendu compte qu'au cours des derniers jours, en Outaouais puis en Chaudière-Appalaches, ça s'est vraiment étendu, pas seulement dans quelques villes, mais à grandeur des territoires. Donc, à partir de demain soir, 8 heures pour le couvre-feu, à partir de jeudi pour les écoles, dans tout l'Outaouais et tout Chaudière-Appalaches, ça va être fermé. Bon, à Québec, il y a une augmentation dans Portneuf, mais c'est encore sous contrôle et ça reste faible dans Charlevoix. Donc, on garde la même région qu'on avait pour la capitale nationale. Bon, les deux autres régions qui nous inquiètent, c'est Montréal puis Laval. Donc, au total, il y a 5 régions qu'on suit de très près. Montréal et Laval, le nombre de cas est élevé. Je reviens à ce que je disais tantôt, quand on regarde le nombre de nouveaux cas, le nombre de cas actifs, c'est 4e et 5e région, Montréal et Laval, donc après Québec, c'est-à-dire Appalaches et Outaouais, mais le nombre de cas reste stable, donc élevé, mais stable, il n'y a pas d'augmentation. Donc, pour l'instant, pour Montréal et Laval, on garde le couvre-feu à 20 heures, mais pour l'instant, on laisse les commerces non essentiels et les écoles ouvertes. Évidemment, on souhaite, surtout les écoles, les garder ouvertes le plus longtemps possible, mais c'est pas impossible que dans les prochaines semaines, des régions très denses comme Montréal et Laval, qu'on soit obligé d'aller plus loin. Mais pour l'instant, on s'en tient au couvre-feu à 8 heures. On voit aussi dans la couronne autour de Montréal, donc Montérégie, Laurentides, La Naudière, la partie CMM ou ce qu'on appelle 450, qu'il y a une certaine augmentation. Donc, on surveille de très proche. Il y a une région qui était jaune, Côte-Nord, qu'on fait passer au orange parce qu'il y a une augmentation de cas. Et peut-être pour préciser ce que j'avais pas fait la semaine passée, puis je m'en excuse, les régions qui sont jaunes, donc nord du Québec, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et Côte-Nord, même si ça devient orange, ces trois régions-là, on interdit aux gens des autres régions d'aller là. On commencera pas à mettre des policiers, mais c'est interdit, donc seulement les voyages qui sont essentiel. On demande aux gens de respecter. Puis oui, vous pourriez avoir une contravention si vous vous retrouvez dans une de ces trois régions-là sans une bonne raison. Dans l'ensemble du Québec, là, dans les 17 régions, la situation est toujours fragile, entre autres à cause de la présence des variants. Et je le rappelle, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut même se compter chanceux d'être épargné sur une partie de notre territoire, mais il n'y a aucune région qui est à l'abri dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, faut rester extrêmement prudent partout, tout le monde. Bon, quand je dis tout le monde, je veux prendre un certain temps pour parler des personnes plus jeunes. On se rappelle, là, dans les premières vagues, surtout la première vague, la grande, grande majorité des personnes qui étaient infectées, qui étaient hospitalisées, c'était des personnes de 60, 65 ans et plus. Actuellement, dans nos hôpitaux, quand on regarde des personnes qui entrent, il y a une majorité qui sont des personnes de moins de 60 ou 65 ans. Donc, peut-être 50, 55 %. Donc, évidemment, s'ils entrent à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont des troubles relativement graves. Donc, les experts savent pas, est-ce que c'est à cause du variant ou est-ce que c'est à cause justement parce qu'il y en a plus de contagion. Mais ce qu'on a vu, là, quand on dit qu'il y a plus de jeunes, c'est pas seulement en pourcentage. Là, en nombre absolu, le nombre de jeunes a comme doublé. Donc, si on se compare avec le pic de la première vague, là, donc il y a une augmentation nette, brute, absolue, appelez ça comme vous voudrez, là, c'est pas juste en pourcentage. Il y a une augmentation du nombre de jeunes, puis les conséquences sont graves. Là. On parle, dans certains cas, à long terme, de maux de tête, essoufflement, fatigue, perte d'odorat, difficulté de concentration. Bon, vous avez vu comme moi, il y a quelques jours à Québec, une femme de 24 ans qui, en quelques jours, a perdu 40 livres, qui est obligée d'être gavée, qui en a pour des mois avant de réapprendre à manger. Ce matin, on voyait dans les médias un homme de 36 ans à Saint-Hyacinthe, qui est là depuis une dizaine de jours, qui est plus capable de marcher parce que dès qu'il se lève, il y a des étourdissements. Donc, c'est vraiment là possible pour des gens de 20, 30, 40, 50 ans d'attraper la COVID puis d'avoir des conséquences très graves. Ce que ça veut dire, c'est que malheureusement, ça repousse le moment où on pense être capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer. Sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité pour deux raisons. Bon, évidemment, ça avance très bien avec la vaccination, puis tous les Québécois qui veulent être vaccinés vont pouvoir être vaccinés d'ici le 24 juin. Puis évidemment, on va voir ce qu'on fait, ce qu'on réussit à faire avec les écoles. On veut garder les écoles ouvertes partout le plus longtemps possible. Mais tant que l'année scolaire sera pas finie, donc autour du 24 juin, il va y avoir de la contagion dans les écoles qui vont affecter les gens qui habitent avec ces enfants-là. Donc, on peut penser qu'il y a beaucoup d'incertitudes là, pour les deux prochains mois. Donc, on a deux gros mois devant nous. Là. Je trouve ça terrible de dire ça. Là. J'aimerais mieux être en train de vous dire, on a quelques semaines difficiles devant nous, là, mais on a, avec le variant, avec la présence de la COVID chez les gens plus jeunes, puis les hospitalisations chez les plus jeunes, on a deux gros mois devant nous. Bon, en terminant, je veux dire, je veux m'adresser aux jeunes adultes, là. Pas ceux qui ont fait du vandal là, dans le Vieux-Montréal dimanche, là, les autres jeunes. Je comprends que vous êtes tannés. J'ai eu 20 ans, puis quand on a 20 ans, c'est le temps d'être avec ses chums, pour avoir du plaisir, puis sortir. Puis déjà, depuis un an, on vous en a demandé beaucoup. Donc, je veux pas faire la morale à personne. Au contraire, je suis très reconnaissant de ce que les jeunes ont fait depuis un an. Mais là, il faut comprendre, ça fait un an qu'on vous dit « Soyez solidaires des plus vieux », mais là, actuellement, c'est votre santé qui est en jeu. Il y a des jeunes adultes qui vont à l'hôpital puis qui ont des conséquences graves. Là. Donc, faut faire attention à votre santé. On a 73 jours devant nous avant que tous les adultes là soient vaccinés, tous ceux qu'ils veulent. Donc, je veux vous dire d'être prudent. Terminant, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, effectivement, ça s'est passé après la conférence de presse, autant du côté de la CNESST que de la santé publique, puis je l'avais pas vu passer. À cause de la présence des variants, les masques à l'extérieur sont obligatoires. Il y a deux exceptions. Si vous êtes seul ou avec des gens avec qui vous habitez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Puisque la santé publique nous dit, si vous faites un pique-nique, maximum 8, une fois que vous êtes assis à 2 mètres les uns des autres, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est les deux seules exceptions. Donc, quand vous êtes seul avec des gens avec qui vous habitez, ou une fois assis dans un parc à 2 mètres, que vous pouvez enlever le masque. Le reste du temps, quand il y a d'autres personnes autour de vous, même s'il y en a juste une qui habite pas avec vous, maintenant, le masque est obligatoire. Donc, je comprends que les mesures changent beaucoup, mais la situation change beaucoup aussi. Donc, je termine en vous disant, la liberté, c'est évidemment plus que jamais le vaccin, puis le vaccin pour tous, donc pas seulement le vaccin pour les plus âgés, mais les vaccins aussi pour les plus jeunes. Hier, on a franchi une étape importante grâce à la bonne organisation. On a franchi le cap du 2 millions de Québécois qui sont vaccinés. Puis, on vise toujours, puis on est convaincu que tous ceux qui veulent se faire vacciner, d'ici le 24 juin, vont pouvoir se faire vacciner. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 73 jours, et après ça, ça va être l'été. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde.
L'été, c'est fait pour jouer. C'est dans 73 jours qu'on va pouvoir rejouer, mais c'est pas sûr. C'est ça quand même que je retiens de ce point de presse, c'est qu'il n'y a rien de sûr. On fait des projections, mais ça reste des projections. On regarde ce qui se fait ailleurs, mais on ne sait pas comment ça va se goupiller. Ici, ce qu'on sait, là, ici, c'est qu'on est à 643 hospitalisations. C'est rien, là, comparativement à la France qui en a 29 000, par exemple. Mais il ne faut pas perdre de vue que la situation peut évoluer très vite dans le mauvais sens. Les gens qui travaillent en santé dans la région de Québec ont tiré la sonnette d'alarme un peu plus tôt cette semaine parce que on le dit là dans cette région-là, ça demeure excessivement préoccupant. La capitale nationale, donc, mais aussi en Outaouais, Chaudière-Appalaches, on a joué un peu avec les cartes géographiques des mesures sanitaires là qui sont reportées par ailleurs d'une semaine. Hein, c'est le défi, une semaine dans les régions où c'est inquiétant. Les régions que je viens de nommer, là, on garde le couvre-feu à 20 heures, on garde les commerces fermés, les écoles aussi. Mais en ce qui concerne l'Outaouais et Chaudière-Appalaches, on ferme tout partout, là. C'est-à-dire que ça ciblait certains endroits au départ. Là, c'est pas le cas. Dans la capitale nationale, on est en poule. On reste comme on est. Montréal et Laval, évidemment, ça continue de préoccuper la santé publique. Le nombre de cas est élevé. En même temps, il faut se dire qu'on est beaucoup plus de monde qu'ailleurs, là. On reste quand même dans une certaine stabilité, mais c'est vrai que c'était épeurant. On garde le couvre-feu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui se passe. On garde le couvre-feu. En échange, les commerces non essentiels restent ouverts, les écoles aussi. On est peut-être, possiblement, en tout cas moi c'est ce que je perçois, là, en train de nous préparer à une fermeture des écoles d'ici à la fin de l'année. On sait là qu'on pouvait pas nous promettre que ça serait pas le cas. Donc vraiment, faut s'accrocher. Puis une des choses qui est un peu incongrue pour moi, c'est de me faire dire, ben le lieu de contamination principale sont les écoles, donc on n'aura pas la paix avant que les écoles soient fermées. Peut-être vacciner les parents, là. Je le sais que ça a l'air d'être prêché pour sa paroisse, mais bon, ça serait juste la logique des choses. En même temps, 73 jours, là, je pense que c'est important de pas perdre ça de vue. Ça va passer très, très vite. Puis hier, on se parlait beaucoup des jeunes. Là. Je pense que l'idée de dire aux jeunes puis aux jeunes adultes, pas seulement les ados, puis même les gens dans la trentaine, là, de montrer des personnes qui sont malades, montrer les ravages de la COVID longue, là, que ça peut durer très, très longtemps, puis de dire qu'en ce moment, dans les hôpitaux, on en a des jeunes, puis on en a des jeunes hypothéqués. C'est peut-être ça qui va nous aider à continuer à suivre les consignes sanitaires, là, le fait d'avoir perdu ce sentiment d'être invincible. Donc vraiment, je pense qu'il va falloir se raccrocher à cette date-là, le 24 juin, où on va pouvoir commencer à penser à une certaine normalité.